Bonsoir. Vous savez, dans les équipes de foot, parfois, il y a des échanges de joueurs. Et nous avons perdu la famicole à Pessac. Mais il y a Prudence qui est là, donc on n'a pas tout perdu. C'est presque égalité. Prudence vient de Pessac. Et elle s'installe à Gonesse. Donc, voilà, on remercie le Seigneur pour elle. Et puis, on peut toujours tenter de convaincre ma maman de venir par ici aussi. Donc, si vous êtes très gentil après la réunion avec elle, je vous demande d'être très gentil avec elle et de lui parler du beau temps qu'il y a à Paris et tout ça. Voilà, 1 Samuel chapitre 10. Aujourd'hui, nous allons regarder la vie de quelqu'un, la vie du roi Saül. Et une large partie de la Bible concerne des histoires. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec des histoires? Je crois que, on peut dire avec certitude que toutes ces histoires ont été écrites pour notre instruction à nous. Et donc, en lisant ces histoires, je crois que la meilleure approche, c'est de prendre tout ce que nous savons déjà de la Bible, d'autres parties de la Bible, par exemple les épîtres de Paul, etc. Et puis de trouver des vérités que nous enseigne la Bible ailleurs, de voir des exemples de cela, et de pouvoir tracer des vies, parce qu'une bonne chose avec ces histoires, c'est que on peut tracer toute une vie dans quelques minutes. On peut voir un choix et on peut voir les conséquences qui se sont produites 10, 20, 30, parfois 300 ans plus tard. On voit des conséquences qui arrivent à une nation à cause des choix qui ont été faits auparavant. Et donc tout ça, c'est pour notre instruction. Et ici, nous voyons dans la vie de Saül. Tout au début, 1 Samuel chapitre 10, verset 1. Est-ce que quelqu'un peut nous lire les premiers 9 versets? Se lever et lire à haute voix, bien fort, ça m'aiderait à ne pas devoir lire ce texte. Et qui veut lire pour nous? Ebi, merci. Tu veux lire bien fort. 1 9, oui.
L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tseltsak. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne compte plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dis, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par trois hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un trois chevaux, l'autre trois gâteaux de pain et l'autre une poutre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes et te donneront deux pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibeah-Ébrim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du but, du tambourin, de la flûte et de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire.
Voilà, merci. Donc, c'est bon, là. On peut s'arrêter là. Donc là, on est tout au début de l'histoire de Saül. Il n'est même pas encore roi, ici. Et Samuel lui donne ses signes. Voilà, ceci t'arrivera, et puis tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Et puis il lui donne ce commandement, cette directive qu'on a lue là au verset 9, verset 8, tu descendras avant moi à Gilgal, Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Donc là, c'est la promesse que Samuel lui-même va arriver, que c'est Samuel en tant que prêtre qui va offrir ces holocaustes. Et tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Alors, ce commandement qui vient de la part du prophète, c'est un prêtre prophète, a une certaine importance parce que ça arrive au début quand même de son ministère public. Hein, il dit, on a vu ça au verset 1, il sera roi, il lui donne des instructions et voici ce qu'il doit faire. Tu dois m'attendre, pendant 7 jours, j'arriverai. Donc déjà, on voit que l'importance de ce commandement, et ça va servir même comme test pour Saül et de son obéissance au Seigneur. Et le commandement est en deux parties. Vous voyez ça, c'est à la fin du verset 8. Il doit attendre, tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi. Et puis la deuxième partie, Samuel lui dira ce qu'il doit faire. Donc la promesse est conditionnelle. Tu m'attends et je te dirai ce que tu dois faire. Et si on avance rapidement jusqu'à la fin de la vie de Saül, si vous avez lu sa vie, je l'espère bien, vous savez qu'à la fin de sa vie, il fait tout pour savoir de la bouche de Samuel ce qu'il doit faire. Hein, et même, il essaye de lui parler, quoi qu'il soit mort. Il veut savoir de la bouche de Samuel ce qu'il doit faire. Et voici cette promesse lui donnée, s'il peut l'attendre, 7 jours. 7 jours. Une semaine. Alors, 1 Samuel 11, c'est la victoire de Saül sur les Ammonites. Je crois que ça, c'est peut-être le plus beau chapitre de la vie de Saül. On voit qu'il prend, on le voit dans l'action, on voit dans son autorité, il prend les devants. Il dirige l'armée. 1 Samuel chapitre 12, donc on avance, et l'adresse d'adieu de Samuel qui est faite à Gilgal. Et notez la fin du chapitre 12, 1 Samuel 12, verset 24. Un peu, ça c'est la fin de son discours. « Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. » Mais, et voici la note avec laquelle il termine, « Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. » Et maintenant le chapitre 13. Saül contre les Philistins. Ça, c'est vraiment ce dont il parle ici au chapitre 13. Regardez le verset 1, 1 Samuel 13. « Saül était âgé de, et en fait, on ne sait pas son âge, mais lorsqu'il devint roi, et il avait déjà régné 2 ans sur Israël. » Donc, quelque temps a déjà passé. Verset 2. « Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoyait le reste du peuple, chacun à sa tente. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui était à Geba. » Alors, notez qui est dans l'action. Est-ce que c'est Saül avec ses 2000 hommes ou est-ce que c'est Jonathan avec ses 1000 hommes? Qui est dans l'action ici? C'est Jonathan. C'est Jonathan qui combat pour l'Éternel et pour Israël. Et les Philistins l'apprirent. Ils ont appris qu'ils ont été battus dans ce poste par Jonathan. Et c'est vraiment cela qui va forcer Saül à agir. Il n'est pas dans l'action jusqu'à présent, mais il sait que les Philistins ne vont pas rester indifférents. Donc vraiment, il doit faire quelque chose. Saül donc fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant que les Hébreux écoutent. Verset 4, tout Israël entendit que l'on disait, et ça je trouve un peu amusant, Saül a battu le poste des Philistins. Alors déjà, il prend la gloire pour ce qu'il n'a pas fait. Et Israël se rend odieux aux Philistins. Et c'est ça l'important. Hein. C'est comme sur la, pendant la récréation, un des petits, il va, il donne un coup de pied à un des plus grands. Alors là, ça intéresse tout le monde. On veut voir maintenant qui, ce qui va se passer. Parce que le grand va être certainement fâché. On va voir ce qu'il va faire. Les Philistins sont certainement fâchés maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et donc le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Verset 5. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ils vinrent camper à Michmash. Alors, rappelez-vous que c'est là où était qui? Au début du chapitre. C'est là où était Saül, avec ses 2000 hommes. Donc, il a dû fuir de cette ville. Il laisse la ville à l'armée des Philistins. Encore, il n'est pas dans l'action, en fait. Il s'est retiré de la ville. À l'orient de Beth-Aven. Verset 6, les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près, et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours, et dans les citernes. On dirait qu'on retourne au temps de juges, là, des juges. Et il y eut aussi des Hébreux même qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. C'est-à-dire, ils ont traversé le Jourdain pour aller de l'autre côté, pour s'échapper. Les gens s'échappent, ils s'en vont. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui, quoi? Il tremblait. Alors là, il se trouve donc à Gilgal. Que faire? Regardez le verset 8. Il attendit 7 jours, selon le terme fixé par Samuel, mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal, et le peuple se dispersait loin de Saül. Vous sentez dans la pression qui monte? La situation est grave. Et le temps passe. Et c'est maintenant le test que Samuel lui-même lui a donné. Et on le sait, et il le sait, parce qu'il va en parler plus tard. Saül, c'est intéressant que jusqu'à présent, il n'a pas été courageux. Il est resté passif face à l'ennemi. C'est son fils, en fait, qui a attaqué les Philistins, pas lui. Mais maintenant, il passe à l'action. C'est intéressant qu'il passe finalement à l'action. Il va faire quelque chose. Regardez le verset 9. Alors Saül dit, « Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. » Et il offrit l'holocauste. Alors, c'est lui-même qui l'a fait. Alors, pourquoi l'a-t-il fait? Mais écoutez son explication. Parce qu'encore, ça, c'est intéressant, hein, parce que, bien sûr, il ne sait pas ce qui va se passer, mais comme il achevait d'offrir l'Holocauste, ça ne peut pas être plus que quelques heures après. Ça ne prend pas trop de temps pour offrir des Holocaustes. Et comme il achevait d'offrir l'Holocauste, voici Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de lui pour le saluer. Et Samuel dit, « Qu'as-tu fait ?» Alors verset 11, c'est son explication. Saül répondit, « Lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, lorsque j'ai vu que tu n'arrivais pas au terme fixé, et lorsque j'ai vu que les Philistins étaient assemblés à Michmash, il y a ces trois choses, hein, ces difficultés. Verset 12. Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert l'Holocauste. Ça fait sourire, non? Je me suis fait violence. Ce sont des excuses d'un petit gamin, presque. Mais il est roi. Il dit, en somme, je ne voulais pas le faire, mais la situation l'obligeait. Est-ce que vous avez entendu cette explication avant? Je ne voulais pas le faire, mais je n'avais pas de choix. Et donc, nous voyons quelqu'un qui s'est fié à son propre raisonnement. Mais écoutez maintenant l'évaluation du prophète. 1 Samuel 13, verset 13, Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement de l'Éternel, ton Dieu qu'il t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, verset 14, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme, c'est-à-dire un autre homme, selon son cœur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que toi, tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. » Et puis notez la suite. Regardez le verset 15. Puis Samuel se leva et monta de Gilgal à Gibéa de Benjamin, et Saül fut la revue du peuple qui se trouvait avec lui. Il y avait environ 600 hommes. Saül, son fils Jonathan et le peuple qui se trouvait avec eux avaient pris position à Geba de Benjamin et les Philistins campaient à Michmash. Donc ils sont toujours au même endroit. Il sortit du camp des Philistins, trois corps pour ravager. Donc ils sont toujours dans la même ville. Il y a ces trois corps qui sortent pour ravager, certainement pour trouver de la nourriture pour l'armée, mais qui reviennent pour j'ai bloqué dans ma tête, je ne vais pas le dire, je le dirai après. Mais ce que je veux dire, c'est que l'armée n'attaque pas en fait. Qu'est-ce que Saül avait dit? Ils vont certainement descendre contre moi. Mais en fait, l'armée ne bouge pas. Regardez le verset 23. Un poste de Philistin vint s'établir au passage de Michmash. Donc c'est près de Michmash, il y a ce passage de Michmash. 1 Samuel 14, verset 4 le décrit ainsi. Il y avait une dent de rocher d'un côté et une dent de rocher de l'autre côté. Donc imaginez, ces deux dents de rocher qui montent. Et c'est un endroit stratégique pour eux, non pas pour attaquer, mais en fait pour défendre. Et donc, ils mettent un poste là pour se défendre d'une attaque de la part des Israélites. Alors, regardez chapitre 14, verset 1. Un jour, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins qui est là de l'autre côté. » Il n'en dit rien à son père. Alors, pour voir le résultat, il faut sauter un peu. Regardez le verset 13, 1 Samuel 14, verset 13. « Et Jonathan monta en s'aidant des mains et des pieds, donc il a dû grimper, et celui qui portait ses armes le suivit. Les Philistins tombèrent devant Jonathan, et celui qui portait ses armes donnait la mort derrière lui. Dans cette première victoire, Jonathan et celui qui portait ses armes tuèrent une vingtaine d'hommes sur l'espace d'environ la moitié d'un arpent de terre. » L'effroi se répandit au camp, dans la contrée, et parmi tout le peuple, le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur. Le pays fut dans l'épouvante. C'était comme une terreur de Dieu. Alors, rappelons-nous, ça c'est très intéressant à l'histoire, que c'est Jonathan qui a d'abord provoqué la crise par une victoire militaire. Rappelez-vous, au chapitre 13, verset 3. C'est lui qui provoque cette crise dans laquelle Saül va offrir ses holocaustes. Et maintenant, c'est qui apporte la résolution à la crise? C'est encore Jonathan, n'est-ce pas? C'est encore Jonathan. en attaquant d'autres Philistins. Donc, Jonathan attaque avec courage, et Jonathan, après, attaque encore de nouveau avec courage. Entre-temps, son père ne fait rien, sauf pour se faire violence, pour faire une désobéissance, en fait, pour offrir des holocaustes, et pour désobéir à l'ordre du Seigneur en offrant lui-même l'offrande de guerre. Alors, si Saül peut se forcer, comme il dit au verset 12 du chapitre 13, à offrir un sacrifice en flagrant délit à la loi de l'Éternel, il se montre complètement inefficace à gérer le conflit avec les Philistins. Il reste complètement passif. Il ne sait même pas ce que son fils est en train de faire. Et Jonathan fait bien de ne pas lui dire, il l'aurait arrêté, il l'aurait empêché. Donc au lieu d'apprécier le rôle que son fils joue, Saül lui enlève toute possibilité de régner par son propre péché. Et notez en plus au chapitre 14, verset 1, vous voyez ça, un jour Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et pousse-en jusqu'au poste des Philistins. En réalité, l'attaque n'était pas imminente et en fait ne s'est jamais produite. L'attaque n'est jamais venue. Les Philistins n'ont jamais attaqué les Israélites. C'est Jonathan qui a finalement provoqué le conflit en attaquant les Philistins. Et trop souvent, même dans nos vies, les menaces, et je mets ça entre guillemets, qui nous poussent à la désobéissance sont beaucoup moins importantes que nous aurions pensé à l'époque. Des gens qui changent tout. Je ne peux pas faire ça parce que si je fais ça, si j'obéis à Dieu, c'est sûr que je vais perdre mon emploi. C'est sûr que je ne vais pas pouvoir me marier avec cette personne. C'est sûr que cela va se passer. Et puis souvent, non, en fait, ce ne sont même pas des menaces réelles. Mais nous nous sommes convaincus des choses qui sont en fait irréelles parce que Dieu contrôle. C'est Dieu qui contrôle. C'est pas nous qui, par notre désobéissance, allons pouvoir contrôler les choses. Et vous savez que la même chose arrivera plus tard quand Saül se trouve face à Goliath, n'est-ce pas? Il reste très, très passif. 40 jours, le gars, il sort et il menace Israël. Et le roi d'Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il reste dans sa tente. Il ne fait rien. Jusqu'à ce qu'un jeune berger qui s'appelle David vienne et apporte le salut à Israël. Et entre-temps, il fait un vœu qui le pousse à vouloir tuer son propre fils. Il insiste à garder ce vœu qu'il a fait. Et c'est son armée qui doit intervenir pour sauver la vie de son fils. Donc nous avons ce grand contraste entre le courage de Jonathan et plus tard de David, qui les pousse à l'obéissance et à l'action, et la lâcheté de Saül qui le pousse à, ironiquement, l'inaction face à l'œuvre du Seigneur, mais la désobéissance face au commandement du Seigneur. Il ne peut attendre et s'empêcher de faire ce qu'il n'a pas le droit de faire, et il ne peut pas se pousser à faire ce qu'il aurait dû faire. Il assume le rôle de prêtre tout en abdiquant le rôle du roi. C'était au roi de défendre son peuple. Ça, il ne peut pas le faire. Mais il assume le rôle du prêtre, ce qu'il n'aurait jamais dû faire. Voyons sa lâcheté, sa crainte, sa peur, et puis sa désobéissance. Et la tristesse, c'est que c'est un cas qui est répété de nos jours par ceux qui ont eu les mêmes privilèges que Saül. Alors, où est le point central? Pourquoi est-ce qu'il a désobéi? Et je veux juste noter trois choses ici. Regardons les paroles de Saül lui-même. Hein. Donc, revenons au chapitre 13 et regardez le verset 10 ou 11, quand Samuel lui dit « Qu'as-tu fait ?» 13-11. Saül répondit « Lorsque j'ai vu, vous voyez ça, tout est soumis à ce que j'ai vu que le peuple se disperse loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, que les Philistins étaient assemblés à Michmash, j'ai vu, et puis verset 12, qu'est-ce qu'il dit ? Je me suis dit. Donc j'ai vu et je me suis dit. Je crois qu'il se révèle, en fait, en s'expliquant. Alors, qu'est-ce qu'on ressent dans sa voix quand il dit cela ? On ressent vraiment la panique. Hein ? Verset 12. « Je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi. » Alors, voici ce qu'on peut dire est le premier problème dans la vie de Saül. C'est une panique, je l'ai mis comme ça, une panique causée par une évaluation des circonstances dépourvues ou démunies de toute foi. FOI. Une panique causée par une évaluation des circonstances dépourvues de toute foi. Il a évalué ses circonstances, mais sans la foi. C'est ce qu'il a vu, il voit ça, il voit ça, il voit ça. Et il panique. Il panique. Et c'est ça le danger pour nous, mes amis. Les décisions qui sont prises dans la panique. Il y a beaucoup de décisions très importantes de la vie qui sont prises dans la panique. Si je ne fais pas ça, je ne peux pas imaginer ce qui arriverait. Alors, si vous vous sentez dans la panique, avec un manque de foi, ce n'est pas le moment de prendre une décision importante. Ce n'est pas le moment. Savons-nous bien évaluer nos circonstances ? Pour bien évaluer nos circonstances, il faut toujours commencer avec une bonne connaissance de quoi ? Ou de qui ? De Dieu, n'est-ce pas ? Et notez le contraste. Donc lui, il dit, j'ai vu ça, j'ai vu que les Philistins, que tu n'étais pas là à l'heure, et que les gens dispersaient loin de moi. Mon armée diminuait, l'autre armée venait vers moi, et Samuel n'est pas là à l'heure. Regardez chapitre 14 et verset 6. Le contraste ici est je ne trouve pas un mot assez fort, mais regardez, 1 Samuel 14, verset 6. « Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussant jusqu'au poste de ces incirconcis, peut-être l'Éternel agirait-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. » Vous voyez le contraste entre ces deux hommes, entre le père et le fils ? Le père, il voit l'armée, il a dit, je vois l'armée des Philistins, moi je vois mon armée, qu'est-ce qui se passe avec mon armée ? On est de plus en plus petit, le nombre diminue. Et Jonathan, il dit, mais on n'est que deux. Mais rien n'empêche à l'Éternel de gagner la bataille avec beaucoup petit.
Je pensais à ça quand je pense à cette salle, j'ai dit... Que je sois riche ou pauvre, j'ai toujours pas assez d'argent. Donc, rien n'empêche à l'Éternel. Donc, si on n'a pas la salle, c'est pas qu'il n'a pas pu le faire. C'est parce qu'il n'a pas voulu le faire. Et notons maintenant, donc ça c'est l'explication de Saül. Donc, même en réfléchissant à l'explication de Saül, on réalise que c'est la panique causé par une évaluation de ces circonstances dans l'absence complète de la foi. Mais regardez les mots de Samuel. Donc, revenons au chapitre 13, verset 13. Samuel dit à Saül, « Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne. Maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. » La destinée à être le chef de son peuple, parce que, il revient ici, parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Alors, selon Samuel, où est le problème ? Il le dit deux fois. C'est quoi ? C'est la désobéissance
à la parole de Dieu. Il le dit très clairement, ce que l'Éternel t'avait commandé, c'est la désobéissance à la parole claire de Dieu. Alors là, mes amis, il n'y a pas de logique, c'est pas difficile, c'est simple. Si on désobéit à la parole de Dieu, nous faisons comme Saül, nous choisissons la même voie. On dit, mais il faut savoir, il ne faut rien savoir en fait. Si la parole de Dieu me le dit, c'est ça que je dois faire. Oui, mais il y a toujours le mais, n'est-ce pas? Non, mais en fait, il n'y a pas de mais. Il n'y a pas de mais. La parole me dit de le faire. Il faut que je le fasse. Voilà, et puis je mentionne rapidement juste un troisième fait qui est triste, hein, qui scelle un peu la fin de Saül, c'est que quand Samuel lui dit « Tu as agi en insensé », qu'est-ce qu'il aurait pu faire, Saül? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Un prophète lui dit « Tu as agi en insensé, tu as péché, tu as désobéi au commandement de l'Éternel. » Il aurait dû se repentir. Et nous voyons troisièmement donc un manque de repentance quand il est confronté. Alors je vais juste vous lire, hein, si vous voulez noter la référence, vous pouvez chercher plus tard, mais c'est 2 Samuel 24, verset 10, et qui dit ceci, 2 Samuel 24, verset 10, « David sentit battre son cœur, c'est-à-dire il avait vraiment une conviction dans son cœur, après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. » Vous vous rappelez de cette circonstance, hein, il a péché. Et il dit à l'Éternel, écoutez les paroles de David à Dieu. J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. David dit de lui-même à Dieu ce que Samuel dit de Saül. Tu as agi en insensé. Et David, plus tard, il va le dire. Seigneur, j'ai agi en insensé. Alors, vous pouvez être comme Saül, vous pouvez pécher comme Saül, mais si vous arrivez à l'endroit où vous pouvez dire ouvertement, Seigneur, Seigneur, j'ai agi en insensé, vous êtes sauvé, vous êtes pardonné. Ça, c'est la grâce, où la grâce abonde, surabonde même, là où le péché a abondé. Mais ce qui est tellement triste avec Saül, c'est qu'il ne l'a pas fait une seule fois. À chaque fois, il se défend. Non, j'ai vu ça et je me suis dit. Alors, si nous avons imité Saül en évaluant nos circonstances dans un manque total de foi et donc en désobéissant à Dieu, ne soyons pas comme Saül dans son refus de se repentir. Mais venons à Dieu dans l'humilité, car Dieu est un Dieu qui aime pardonner. Prions le Seigneur.